Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 15 avril 1994.
Sur la connaissance artistique. Alors voici des questions posées. Est-il légitime d'interpréter l'œuvre d'un artiste alors que celui-ci, au moment où il crée, n'envisage certainement pas toutes les interprétations que chacun peut en faire? Je comprends. Heureusement pour lui, il ne créerait jamais autrement. Il faut bien distinguer l'inspiration et les interprétations. L'artiste, il est dépassé par son œuvre. artiste en tant qu'artiste et qu'il réalise une œuvre, d'une certaine manière, la réalisation de cette œuvre fait qu'il y a quelque chose qui lui échappe. La matière et tout ce que la matière peut réagir en face de la forme que lui-même donne, ça lui échappe. Donc l'interprétation, il ne peut pas avoir un droit sur les interprétations. Aucun. Et c'est vrai pour toute œuvre, même quand le philosophe écrit Aristote, toutes les interprétations qu'on donne de ses écrits. Alors il rugit. Il est dans un autre monde. Allez-y, les petits amis. Faites ce que vous voulez, ça ne me touche plus. Et au fond, l'artiste n'aurait toujours pas cette espèce de magnanimité. Ça ne me touche plus. Je le livre à l'humanité. L'humanité en fera ce qu'elle veut. Et c'est là, la souveraine indépendance de l'artiste, quand il est un grand artiste. Ça lui est égal, les interprétations, les hommes disent. Interprétez comme vous voulez. Ça ne me regarde plus. Et je crois que ça, c'est vrai, cette attitude-là. L'artiste demande cette grandeur d'âme. Il est magnanime. D'où vient la nécessité de la réalisation d'une œuvre d'art qui n'a d'autre but que la beauté? Si l'idée porte en elle-même la beauté de l'œuvre. Ah, oui, mais l'idée reste idéale et l'œuvre reste concrète. C'est toujours le passage de l'idéal au concret. C'est le problème de l'individuation. Vous voyez, vous regardez le problème de l'individuation au niveau métaphysique par rapport à la nature humaine. Regardez le problème de l'individuation, de l'idéa par rapport à l'œuvre. Il y a quelque chose dans l'œuvre qui échappe à l'idéa. Et qui fait que l'idéa se réalise différemment dans du bois, ou dans de la pierre, ou dans du bronze. Donc, voyez, d'où vient la nécessité de la réalisation d'une œuvre d'art qui n'a d'autre but que la beauté. La beauté artistique demande d'être sensible. Un artiste qui vit dans ses idéaux n'est pas uniquement un artiste, c'est un artiste idéaliste. Et l'artiste n'est pas idéaliste, il est artiste, il réalise une œuvre. Le point de vue idéaliste, c'est philosophique, c'est pas artistique. Il réalise une œuvre concrète, l'artiste. Et l'idéal n'est pas concret. C'est pour ça qu'un artiste qui dit qu'il est un artiste et qu'il n'a jamais rien réalisé dans sa vie, je dis très bien, vous pouvez porter tout ça en vous, mais vous n'êtes pas un artiste. L'artiste est celui qui réalise une œuvre. Il est artiste à la mesure où il arrive une œuvre. De quelle façon l'idée porte-t-elle la beauté? Oui. Alors, bon, on va toucher le point de vue de la beauté. Parce que c'est peut-être la beauté qui au fond, est quelque chose de très particulier. La critique de la beauté. Qu'est-ce que c'est que le beau? Alors, il y a des questions critiques très simples. Est-ce que la beauté est intranscendantale au sens de saint Thomas? De veritate, question 1, article 1. Je vous ai dit, il faut que tous vous ayez lu cet article. J'espère qu'il est traduit. ceux qui savent diviser le mot en latin, puis ça c'est une chose qu'on doit avoir lu. C'est quand même un article extrêmement important qui se répète dans un Thomas. Il faudrait rassembler toutes les œuvres de un Thomas sur l'idée de bien, l'idée de beau, l'idée de... Il n'y a pas sur l'idée de beau, mais le bien, l'un. Bon, un Thomas rassemble tous les transcendentaux dans le De Veritate, question 1, article 1. Et il se place au niveau des rationes et parle de reno contour. Donc on est vraiment dans un climat de critique. L'erreur de la scolastique thomiste par Suarez, c'est d'avoir commencé la métaphysique par les transcendentaux. On ne commence pas la métaphysique par la critique. Or, on l'a fait. Ce qui fait qu'on n'a pas regardé les transcendentaux comme une question critique. On l'a regardé comme une question métaphysique. J'ai connu encore ce temps où l'on commençait la métaphysique par les transcendentaux.
Celle des
de la propriété, puisque la propriété est convertible avec le principe. Donc, même extension et même compréhension. Donc, les transcendentaux, ça ne m'étonne pas d'où ça vient, ils nous donnent comme ça. Puis soyez intelligents et voyez que ça se fonde sur la métaphysique. Et c'est la critique qui se fonde sur la métaphysique. Satoma ne parle jamais de la ratio pulcri, la raison de beauté. Mais cependant, Satoma parle du beau. Et même dans son commentaire des noms divins, c'est un des lieux très importants pour savoir ce que c'est que le beau pour Satoma. Puisque c'est Denis. Et Denis est néoplatonicien. Et que les néoplatoniciens ont beaucoup parlé du beau. Le premier qui a vraiment parlé du beau parmi les... c'est Platon. Et c'est Plotin. Plotin, fils de Platon. Et puis après Denis. Alors, celui qui veut étudier le beau, qu'il étudie le beau dans Platon, dans Plotin, dans Denis, dans Thomas d'Aquin. Là, il y a une belle petite étude à faire. Facile, du reste, pas difficile. Mais facile à faire. Et voyez que Thomas d'Aquin ne considère pas que le beau est un transcendantal.
Spirituel, bien sensible.
Schutter devait être les amis d'Aristote. Il faut beaucoup manier la forme pour arriver à dire que la forme, c'est l'être. Pour Platon, la forme, c'est l'être. Puisque l'intelligibilité, c'est l'être. Et pour Aristote, la forme n'est pas l'être, c'est une modalité de l'être. Mais c'est pas l'être. Et si la forme était l'être, il n'y aurait pas de cause matérielle. La matière serait du non-être. Et c'est ce que fait Platon. La matière est du non-être. Il est logique avec lui-même. Puisque l'être se divise en forme et matière. Le devenir implique forme et matière. Donc, la forme n'est pas au même niveau que l'être, mais exprime la détermination particulière. Et le beau, c'est la splendeur de la forme. La splendeur de la forme étant justement ce qui vient immédiatement après l'être, mais qui n'est pas au même niveau d'intelligibilité. Puisque forme s'oppose à matière. Forme se distingue de la matière. Et la splendeur de la forme, c'est la conquête de la forme sur la matière. Et le beau, c'est cette conquête de la forme sur la matière. Vous voyez, l'indétermination de la matière n'est pas belle. Elle est source de laideur, de dégradation. Alors, il peut y avoir une beauté dans la dégradation. La beauté du démon. Les fleurs du mal, de Baudelaire. Il peut y avoir une certaine beauté dans la dégradation. Mais, faisons attention, ce n'est pas ça qui définit le beau. La raison profonde, c'est que justement, le beau dit quelque chose à ma sensibilité. Quand saint Thomas définit le beau, quod visum placet, ce qui étant vu plaît. Quand saint Thomas définit le beau, la proportion. En définissant le beau, la proportion. Quoi définissant le beau, quoi de visum placet, il donne la définition subjective du beau et la définition objective du beau. Quand vous faites une petite enquête historique, je l'ai faite en partie, pas complète, parce que c'est ça, vous voyez qu'il y a toujours deux aspects du beau, un aspect objectif, un aspect subjectif. Et je crois qu'on ne peut pas ramener le beau uniquement à l'objectivité. Toujours un aspect subjectif dans le beau. Et il y a un fondement objectif. Alors, on pourrait dire qu'il y a une situation limite du beau objectivement. Ça, je crois qu'on pourrait le faire. Vous voyez ? Il y a quand même des éléments nécessaires objectivement pour qu'une chose soit belle. Mais le beau ne se ramène pas à quelque chose de purement objectif. Il y a toujours quelque chose de subjectif. C'est pour ça que une œuvre d'art peut plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. C'est très net pour le romantisme. Il y a des gens qui se sentent irrités devant le romantisme, pas le supporter un seul instant, et d'autres se complaisent là-dedans. Il y a que là qui sont à l'aise. C'est très très curieux ces choses-là. C'est pour ça que les querelles peuvent indéfinies. Il n'y a pas d'absolu dans le beau esthétique, dans le beau artistique, dans le beau d'une œuvre d'art. Il n'y a pas d'absolu dans la beauté de la nature. Les uns aimeront le petit jardin bien dessiné et d'autres aimeront la forêt vierge. C'est une autre beauté. Et c'est pour ça que ce n'est pas l'être d'un art abstrait. C'est très curieux de parler d'un art abstrait. C'est une contradictoire in terminis. L'art est sensible et on parle d'un art abstrait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on formalise la forme. On l'abstrait de tout un contexte matériel et on la met en pleine lumière. Ça fait partie d'une réflexion critique. mesure dans le mot quod viso placet. Quand vous dites ce qui plaît à la vue, ça permet à la vue de s'arrêter. Vous êtes séduit. Qu'est-ce que c'est que la séduction? La séduction, je crois, c'est la vérité dans la beauté. Vous êtes séduit, vous vous arrêtez devant des yeux grecs. Vous êtes séduit. Alors, la vérité dans la beauté, c'est que vous retrouvez dans la beauté, dans une œuvre belle, vous retrouvez l'idéa. Parce que la mesure, vous voyez, je crois que la mesure de la beauté, c'est vraiment l'idéa. Tandis que celui